enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Que faire lorsqu'on a l'impression que d'autres ont gâché notre vie, que d'autres, par les choix qu'ils ont faits, par les décisions qu'ils ont prises, par les gestes qu'ils ont posés, ont pu gâcher notre vie? Mais juste avant d'aller au cœur de ce sujet-là, j'ai pensé d'introduire un petit peu ce thème-là aujourd'hui avec, je sais pas si on peut appeler ça une devinette ou une charade ou quoi que ce soit. J'ai pas l'expression, ceux qui sont professeurs de français au niveau primaire pourraient m'aider à la fin de la réunion en me disant c'est quoi cette façon de procéder-là. Mais le titre, c'est « Qui suis-je? » Et cela va apparaître à l'écran. « Je n'arrive qu'une fois et je ne dure qu'un temps. Je sais quand je commence, mais je ne sais quand je finis. Je suis pleine de possibilités, mais aussi pleine de contrariétés. Je suis parfois difficile, mais j'offre toujours la possibilité de se reprendre. Il y en a qui m'utilisent pleinement et d'autres qui me gaspillent bêtement. Il y en a qui ont peur de moi et d'autres qui profitent de moi. Certains croient que je suis compliqué, mais dans le fond, je suis toute simple. Il y en a qui croient que je coûte très cher, mais ceux qui me connaissent bien savent que je ne coûte presque rien. Parfois, je commence mal et parfois, je finis bien. Parfois, je commence bien et parfois, je finis mal. Mais entre mon début et ma fin, j'offre à tous la possibilité de changer son destin. » Or, pour 200 $, quelqu'un pourrait me dire la réponse. Ah, vous allez voir le trésorier de l'Église ici, il va te faire un plaisir de pouvoir contribuer ici à votre situation. Effectivement, la diapo va apparaître à l'écran. Qui suis-je? Je suis la vie. Et en dépit du fait que c'est, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi une charade ou quoi que ce soit, je pense que cela résume beaucoup l'effet produit juste du regard qu'on peut poser sur la vie. Vous savez, on a la vie parfois qu'on veut avoir ou qu'on aspire à avoir, c'est-à-dire que la vie est souvent soumise à nos conceptions de ce qu'elle est, à notre appréhension de ce qu'elle est, de ce qu'elle pourrait nous offrir. Et je veux vous amener ce matin à un retour à la vie telle que Dieu veut que vous l'ayez. Et c'est pour ça que le titre de ce message est un retour à la vie, parce que pour bien des gens, parfois, on a comme l'impression d'avoir passé à côté. Donc, le texte principal aujourd'hui, il va apparaître à l'écran dans quelques instants, mais porte sur la parabole du fils prodigue, qui présente en fait deux histoires de vie. La diapo va apparaître. En juillet dernier, j'ai apporté l'histoire du fils prodigue, c'est-à-dire l'histoire d'une personne qui a gâché sa vie littéralement par une série de mauvais choix. On va juste résumer ça dans quelques instants. Mais aujourd'hui, on va voir l'histoire du frère du fils prodigue, l'histoire d'une personne dont la vie a été gâchée par quelqu'un d'autre. Vous savez, plus j'ai fouillé depuis les dernières semaines, même les derniers mois, cette parabole du fils prodigue, plus je découvre qu'il y a une immense richesse, énormément d'informations, d'inspiration pour chacun de nous. En fait, c'est pas juste l'histoire d'une vie, celle du fils prodigue, c'est pas juste l'histoire d'une deuxième vie, celle du frère du fils prodigue, c'est aussi l'histoire d'une troisième vie, celle du père de ces deux fils-là. Et comme dirait l'autre, il y a aussi l'histoire d'une quatrième vie, c'est l'histoire du veau gras qui lui était fini à l'abattoir dans un michoui. Il faut comprendre qu'il y avait une réalité pour lui aussi. La réalité, c'est qu'on va se concentrer plus sur les éléments qui nous rattachent à nous. La parabole du fils prodigue donc nous amène cette réalité de gens, peu importe la condition, peu importe l'arrière-plan qu'ils vivent, peuvent avoir accès à cette vie-là. Le texte va apparaître à l'écran, on reprend dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'attraper ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'attraper ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. C'est l'essentiel. Je vais prendre quelques instants pour rapporter un petit peu l'essentiel de cet aspect que j'avais développé avec vous, ceux qui étaient ici au mois de juillet. De cette dimension d'un fils, en fait, c'est l'histoire d'un drame familial qui prend place ici. L'histoire d'un fils qui revendique ou demande à son père l'héritage, mettant ici en sécurité toute la famille au complet. C'était pas une décision qui mettait tant en situation sa vie personnelle, autant aussi que sa vie familiale. Il compromettait la vie des autres. C'est l'histoire donc d'un jeune homme obnubilé par ses rêves qui voit pas plus loin que le bout de son nez, qui est absorbé, qui est fasciné, qui est envoûté par une direction qu'il veut prendre. Et comme j'ai mentionné précédemment dans cette série, par un rêve qui est irréalisable, par un rêve, parce qu'il y a des rêves qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui rêvent des rêves impossibles, des rêves destructeurs. Il y a des gens qui, pendant des années, vont s'imaginer des choses, puis un jour, ils vont passer à l'action en voulant réaliser ces choses, ne sachant pas qu'à leur propre insu, ils s'en vont vers la mort, vers la destruction, vers des vies brisées, des vies détruites. Et c'est bien sûr l'histoire qui est relatée dans cet épisode de la parabole du fils prodigue. Il y en a eu de ces histoires-là. Il y a eu des histoires de gens qui, effectivement, font des choix tellement peu réfléchis qu'ils se retrouvent, littéralement, comme on dit communément, les pieds dans les plats. Il y en a eu de ces histoires. Mes semaines à moi, comme pasteur, sont des successions d'histoires de gens qui littéralement bousillent leur vie et celle des autres. Des situations qui me surviennent, puis il y a des fois que je me retrouve littéralement avec la manifestation visuelle juste devant moi, à mon bureau, de gens qui sont quasiment des personnifications d'histoires de Sainte Écriture. Il y a quelques années de ça, il y a une femme qui vient me voir, qui me dit « Monsieur Morissette, je suis la femme adultère. » Fait que là, je dis, wow, ou elle a un dédoublement de personnalité, ou elle a trop lu la Bible, puis elle associe quelque chose qui est pas là. Je dis, à quoi j'ai à faire face? Elle dit, Monsieur Marcel, je blague pas. Je suis celle que tout le monde conspue. Je suis celle que tout le monde juge. Un jour, je suis partie en croyant au grand amour. J'ai laissé mon mari, j'ai laissé mes enfants. J'ai parti et j'ai quitté en croyant ce rêve-là de cet homme à qui j'avais cru, qui m'avait envoûté par ses paroles. Je croyais vraiment que c'était le prince charmant qui m'amenait dans la direction où ma vie prendrait un sens. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Ça, voici la réalité. Je suis sur l'aide sociale. J'ai vieilli. Mes enfants me parlent plus. J'ai tout gâché. Une réalisation abrupte de cette réalité-là. Ma vie est gâchée. Il y a des moments donné où des gens font ce constat-là. Je me souviens de quelqu'un d'autre qui m'a dit, qui est un classique aussi auquel on assiste souvent. C'est Marcel, j'ai quitté ma famille à 18 ans. J'étais un homme qui parle. J'ai bu, j'ai consommé, j'ai galvaudé de gauche à droite. J'ai été sur le party pendant 25 ans. Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai 45 ans. Je suis brûlé par la vie. Je suis malade, je suis fatigué, je ris plus, je m'amuse plus, je trouve plus rien de fun dans la vie. J'ai pas de métier, j'ai pas d'emploi stable. Le party est fini, puis moi aussi. Ça, c'est de la réalité. De fils et de filles prodigues qui vivent des vies complètement brisées, on assiste à ces éléments-là. Mais le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que tous ceux qui ont gâché leur vie peuvent avoir une chance de se reprendre. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. L'histoire du fils prodigue, c'est une histoire aussi pleine d'espoir, parce qu'il y a des rebondissements. Et le message qu'on doit prêcher constamment, et la foi qu'on doit animer dans les gens, c'est que les choses peuvent changer. L'histoire du fils prodigue finit bien. C'est un film hollywoodien avec une bonne conclusion. La manifestation concrète qu'une vraie reconnaissance de nos difficultés, de nos torts, de nos erreurs, qu'une vraie repentance peut mener à un heureux dénouement. Oui, c'est possible. C'est ce que la Bible dit, puis des gens, des dizaines et peut-être des centaines de personnes ici l'avaient vécu. Vous avez vécu ce que je pourrais appeler ce grand rebondissement dans votre vie. C'est beaucoup de gens peuvent témoigner de cela dans la réalité de leur vie. Et c'est ça l'histoire ici, l'histoire donc pathétique d'un père qui retrouve son fils, qui a espéré et anticipé pendant des années ce retour-là. C'est le récit d'une grande réconciliation. C'est le récit d'une famille qui s'est reconstituée comme au temps où elle n'aurait jamais dû être brisée. En fait, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, un heureux dénouement, ce que vous pouvez dire « Amen » avec moi. Pas si sûr que ça. Peut-être pour lui, il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Peut-être pour le fils prodigue, peut-être pour le père du fils prodigue, mais il y a un frère qui est là, qui lui le prend pas. pendant qu'il est là, on va regarder un petit peu le texte, on va saisir un petit peu le drame, et c'est l'enfer sur lequel je vais mettre ma pensée ce matin. C'est la suite de l'histoire du fils prodigue, parce qu'elle ne se termine pas avec un gros party et un michoui à la maison. Il y a une suite à tout ça qui n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le voir dans un premier temps. Alors, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce que ton père l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Regardez-moi ici un instant. Ma conviction profonde, personnelle, c'est que l'histoire du frère du fils prodigue, ou comme je vais l'appeler pour le reste de cet avant-midi, le frère prodigue, je vais vous dire que cette histoire-là représente, à mon avis, la majorité de la condition de ceux qui sont ici ce matin. Je crois que plus de gens dans cette auditoire ce matin qui peuvent s'associer au frère du fils prodigue qu'au fils prodigue. Je sais qu'il y a une portion, puis on le fait beaucoup, on entend des témoignages lorsqu'il y a des baptêmes de gens qui ont quitté une vie de gâchée, tout ça, qui ont vécu ce sens d'espoir et cette transformation et ce renouvellement de leur vie, mais beaucoup d'autres gens ont vécu à côté ces gens-là avec toutes les conséquences que cela arrive. Je crois que beaucoup plus de gens vous identifiez à cette personne-là. Et d'ailleurs, quand on la lit dans un premier geste, cette histoire-là, on dit, la première réaction qu'on a à l'intérieur, si vous êtes vraiment en contact avec vous-même, vous dites, ça, c'est pas juste, c'est ça. Lui, il est parti sa rumba pendant des années, il a gaspillé mon héritage, l'héritage familial, puis là, il revient, puis là, on va faire comme si rien n'était. Dans la mentalité québécoise, quand un fils de même revenait à l'époque, on le recevait avec une brique pain fanal. Attends, mais qu'il revienne à la maison, on va se parler. Vous voyez la réalité? Et on est un peu pris dans notre véhicule intérieur parce qu'on dit comment il faut réagir dans tout ça. Et quand on est des bons chrétiens, on ne devrait pas se fâcher, peut-être frustrer, c'est une bonne nouvelle, mais dans le fond, à l'intérieur, c'est une mauvaise nouvelle. Je la trouve pas le fun, cette nouvelle. C'est pas juste. Moi, j'ai marché droit toute ma vie, j'ai jamais gaspillé mon argent, j'ai jamais sombré dans la débauche, je suis une bonne personne, je viens à l'église 3-4 fois par semaine, je suis prêt à tous les jours, depuis que je suis au monde, je fais tout ce qu'il faut, j'obéissais à mes parents, j'étais une bonne épouse, j'étais un bon mari, j'étais un bon père, j'étais de mère, c'est moi la personne qui laisse passer les gens sur le pont Jacques-Cartier avant moi des embouteillages. Je suis pas celui qui coupe la ligne, celui qui se fait couper dans la ligne. Je suis responsable, je travaille dur pour joindre les deux bouts, je suis excessivement responsable, je prends la vie au sérieux, j'ai pas de temps à perdre, je paye pas mon temps. Puis là, il y a une fête, puis c'est moi qui devrais être fêté, puis c'est l'autre qui est fêté. C'est pas juste. C'est pas juste. Là, je voudrais éveiller un peu de frustration. Fâchez-vous ce matin. Exprimez des émotions quelque part. Faites-vous partie des AA. Des agressifs anonymes. Des gens qui refoulent à l'intérieur. Des gens qui n'osent pas dire, n'osent pas penser des choses. J'ai vérifié que la table des soins pastoraux, puis j'étais étonné, vendredi, parce que je dis, quand vous pensez aux frères du fils prodigue, qu'est-ce que vous pensez? Puis la plupart d'entre eux, certains, effectivement, des choses, c'est pas juste, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis honnêtement, là, le fils prodigue, pas sûr qu'on l'aime tant que ça. D'accord, je sais qu'on peut pas dire ça, je sais que dans une église ici, qu'on doit pas trop ventiler les choses, mais spontanément, quand on est en contact avec soi-même, on se dit, je suis pas sûr là, que c'est une belle histoire, peut-être le fond pour lui, mais nous, on a vécu d'autres choses. Maintenant, c'est quoi le problème du frère, du fils prodigue? C'est quoi le problème du frère prodigue? J'ai fouillé, j'étais tellement souvent un petit peu perdu dans tout ça, que j'ai appelé Dr. Phil. Dr. Phil, êtes-vous capable de me dénouer cette histoire-là? Qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe avec sa vie? Pourquoi il pète sa coche, il pète les plombs, il saute une coche, appelez ça comme vous voulez dans ce moment-là. Au moment où son père est content, son père a attendu pendant des années le retour du fils, le fils revient, c'est une bonne nouvelle, lui, ça ne fait pas son affaire. Qu'est-ce qui arrive? Y a-t-il quelque chose avec lui? Puis là, Dr. Phil m'a donné quelques indications, puisque je l'ai étudié correctement, j'ai écouté son prime time à la télévision et tout ça. Il m'a dit, Dennis. Je lui ai dit, yes, Phil. Yes, doc. Le premier problème du fils prodigue, c'est qu'il a vécu une vie différente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si on se pose la question, pourquoi il réagit comme ça? Mais c'est parce que ce qui se passe à l'extérieur procède de ce qui se passe à l'intérieur. Il n'a pas pété sa coche, comme on dit communément. Il n'a pas pété les plombs. Il a exprimé ce qu'il vivait intérieurement depuis tellement d'années. Quelque chose qui était réprimé profondément à l'intérieur de lui. Je vais vous donner juste des exemples. On va juste fouiller un petit peu ça avec Dr. Phil, bien sûr. Première chose, c'est un homme frustré. C'est un gars frustré. Il se met en colère. Comment se fait, je sais qu'il est frustré, mais c'est parce qu'il s'est fâché. Il est fâché envers son frère, mais surtout, il est fâché envers son père. Parce que c'est avec son père qu'il y a une altercation dans la discussion. Lorsqu'il revient, c'est son père qui plaide pour qu'il revienne, puis lui doit pas revenir. C'est un homme frustré. C'est un homme obstiné aussi, parce que le texte mentionne qu'il veut pas rentrer. Son père sort dehors. Essayez d'imaginer la scène. Vous avez sûrement déjà, avec une vie passée, vécu une situation où tu essaies de raisonner quelqu'un et de le faire rentrer dans la maison. Party de Noël à la Québécoise. Fête du jour de l'an à la Québécoise, où il y en a un qui a fait de quoi, puis on va essayer de le raisonner dehors. Il est en chemise. La chemise est sortie des culottes dans le banc de neige. Rentre dans la maison. Ben, viens t'en donc. On va savoir si le panneau. Il m'a dit si, mais la chicane est prise dans la situation. J'ai déjà vécu ça comme bon Québécois de souche, hein, j'imagine. Je suis seul à avoir vécu ça. Rassurez-moi un petit peu ce matin. C'est un homme qui est obstiné, il ne prend pas, il veut pas rentrer. C'est un homme qui est prisonnier. Le texte mentionne « Depuis tant d'années que je te sers ». Maintenant, ça semble correct. En quoi qu'il est prisonnier? C'est parce que l'expression anglaise est différente quand on fouille dans le texte, parce que c'est le mot qui est utilisé par « sers », c'est « slave ». C'est un peu comme si le fils dirait à son père « Ça fait des années là que je suis pris dans la situation ». Essayez d'imaginer, là, je sais pas comment on pourrait caricaturer cette histoire-là dans une vie moderne. On va dire que c'est l'histoire d'une famille qui a une pizzeria. OK? Fait que le père et les deux fils travaillent dans la pizzeria, puis ils travaillent fort pour faire boucler un restaurant familial et tout ça. Puis un jour, il y a un des fils qui arrive, il dit, écoute, le père, papa, donne-moi ma part de la pizzeria, je m'en vais. Puis le fils est parti, puis il est allé sur le party. Puis l'autre frère, il est pogné avec la pizzeria, puis son père fait des pizzas soir après soir tout seul, puis il en fait des pizzas, pepperoni, fromage, all dress, tout ce que vous voulez. Puis pendant des années, bien, un jour, le fils revient, puis là, son père fait un gros party au restaurant, puis lui, c'est encore lui qui fait la pizza pour son frère. Voyez un petit peu le tableau de ce qui peut se passer, là. C'est pas juste l'affaire. Le gars, il est frustré, le gars est obstiné, puis le gars, il trouve pas ça juste. C'est ça ce qui vient à l'intérieur. Il est prisonnier de la pizzeria, puis il peut pas sortir parce que tout va s'effondrer. Il est comme pris dans cette situation-là. Bon, maintenant, je caricature un tout petit peu. La réalité, c'est ce qu'il vit à l'intérieur. Pendant des années, il a enduré, il a bossé durement, il vit quelque chose qu'il n'a pas le goût de vivre. Cinquièmement, c'est un gars blessé. À l'intérieur, il ne le dit pas, il ne l'exprime pas. Pendant des années, il a vécu dans le silence cette blessure-là profonde. Et là, il l'exprime. « Jamais tu m'as donné à moi un chevreau. » C'est pas juste. C'est tellement, je me retiens parce que c'est tellement familial tout ça. C'est des injustices qui se vivent dans les familles. Vous savez, deux, trois enfants, vous le vivez. C'est pas juste, il y a plus de jus que j'en ai. Il y a plus gros morceaux de gâteau au chocolat que j'en ai. Il y a des situations qui vont perdurer pendant des années chez les oncles, chez les tantes, les gens, les autres, sur toutes sortes d'éléments de même. Mais bien sûr, la parabole ne porte pas sur les questions familiales. Mais on voit émerger l'humanité des gens là-dedans. Moi, j'ai jamais rien eu, puis lui a tout eu comme impression qu'il a. Sixièmement, il est jaloux. Il dit, quand ton fils, le texte mentionne, il ne dit pas quand mon frère est venu. Il dit, quand ton fils est revenu, il y a tant d'années que je te sers, jamais je t'ai désobéi. Et moi aussi, tu m'as jamais donné le chevreau. Mais quand ton fils à toi, encore une fois, regardez comment c'est fascinant, inspiration, 2000 ans à peu près, que c'est ton fils. Okay? Quand vous savez, quand les couples ont un problème avec un enfant, puis que votre femme ou votre mari te dit, parle à ton fils. Mais c'est-tu ton fils ou c'est mon fils quand ça va mal, puis c'est ton fils quand ça va bien, ou c'est-tu notre fils à quelque part, on l'a-tu conçu ensemble? C'est quoi la réalité? C'est la manifestation d'un désengagement. Je veux rien avoir à faire avec lui. C'est ton fils. C'est pas mon frère. Ça peut être semblable de subtilité du langage. Mais encore une fois, ça résume la manifestation de ce qui vient à l'intérieur. Il est jaloux. Pff, pas lui. Et septièmement, il est rempli de ressentiment. C'est pour lui que ça tue le veau gras. Je vous dirais, si on avait à résumer l'ensemble de la vie intérieure, le frère prodigue, c'est le ressentiment. Comprenez-moi bien, là. À l'extérieur, ce gars-là, c'est le Mr. Nice Guy. C'est un bon monsieur. Quand je dis que ça résume pour moi ou ça illustre la majorité des gens, la majorité silencieuse des gens, anonymes, de gens qui vivent des choses, du bon monde, des gens corrects de la vie, Puis quand, en apparence, à l'extérieur, tu as l'impression que tout est correct, mais qu'à l'intérieur, il y a tout un univers qui est là. Vous avez tous vécu ces histoires-là, on entend parler, de, que ce soit de drames passionnels ou sanglants, ou ce que tu, ou TQS interroge les voisins, puis ils disent, on pouvait pas s'imaginer, ça va donner un si beau petit coup, et tout ça. Comment ça fait que le drame est arrivé? Vous entendez des situations de gens qu'on peut pas s'imaginer qu'ils aient posé des gestes comme ça, ou d'autres gestes aussi aussi particuliers, pas toujours aussi dramatiques, mais aussi particuliers, de cet élément-là de ressentiment qui ressort à l'extérieur. De gens qui vivent quelque chose à l'intérieur, mais qui ne paraît pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'on les appelle habituellement des agressifs passifs. Ils sont frustrés, mais tout ça est emprisonné à l'intérieur d'eux-mêmes. Jusqu'au moment où il arrive une situation qui va déclencher ça. Et c'est ce qui arrive ici. Le frère vit une vie, je dirais, raisonnable, tant et aussi longtemps que son frère n'est pas revenu. Mais le jour où le frère remet le pied sur le terrain, il y a tout un passé qui s'ouvre et qui se déballe. Il y a toute une situation, toute une condition, qu'on pourrait caricaturer à l'excès, qu'on pourrait même blaguer dessus, mais dans le fond, c'est un drame majeur. Vous savez, dans ma formation, il y a quelques années, j'ai lu un livre d'un intervenant qui s'appelle Alice Miller, qui est une dame de réputation mondiale, qui a écrit un livre un jour, « Le drame de l'enfant doué ». La première réaction, quand on voit le titre, on se dit, écoute, là, comme drame, il se fait plus pire que ça. D'accord avec moi que la douance, le fait d'être équipé, d'être outillé dans la vie avec des dons et des talents, c'est pas un drame. Cette femme-là a eu la délicatesse, au travers de tous les contacts qu'elle a eu avec les enfants, de découvrir que beaucoup d'enfants qui sont bien, qui sont parfaits, vous savez, ceux qui ne donnent pas d'ouvrage dans la famille, vivent des drames intérieurs majeurs. Parce qu'eux, on les laisse pour compte, parce que ça va tellement bien qu'on n'a même pas besoin de s'en occuper. Ils sont tellement aimables qu'on n'a même pas besoin de les aimer. Mais le petit qui tire l'attention dans la maison, qui brasse les affaires, le petit délinquant en construction, là, lui, il a l'attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est à vous que je m'adresse ce matin. Parce que ce que je veux vous dire ce matin, ce que je veux péter devant vous, c'est que vous tous, de la majorité silencieuse, qui ne faites rien de mal officiellement dans la vie, qui est toujours assidu, il y a beaucoup d'entre vous qui vivaient un drame à l'intérieur. Puis le pli de mon cœur ce matin, c'est de vous dire que Dieu voit ce que vous vivez à l'intérieur. Ce que vous vivez est peut-être invisible aux yeux des gens que vous côtoyez, peut-être même des membres de votre propre famille, mais aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert. Il voit l'état de votre cœur. Premier problème du frère prodigue, c'est que ce qui vient à l'intérieur est différent de ce qui vient à l'extérieur. Il y a tout ça qui est réprimé. Deuxième point, deuxième problème, le fils prodigue n'a pas compris puis il n'a pas cherché à comprendre. Voici ma pensée. Il n'a pas compris la condition de son frère. Écoutez-moi bien ici, là. Pour qu'un gars décide de demander l'héritage à son père, puis de partir sa débauche, puis de tout brûler ça, puis de finir dans un abattoir à pourceaux, il faut qu'il y ait un problème. Quelqu'un de sensé, quelqu'un d'équilibré, de quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est heureux et épanoui ne pose pas des gestes comme ça. Mais lui, il ne voit pas. Il voit plus l'effet de tout ça sur lui que la réalité et la condition de son propre frère. Deuxième chose, il n'a pas compris, il n'a pas cherché à comprendre la conversion de son frère. Parce que si on assiste à une réelle repentance, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est pas quelque chose, je l'avais illustré lors de la prédication précédente là-dessus, c'est pas quelque chose que, ça peut être simplement une intention intérieure en disant, ouais, il faudrait peut-être que j'aille voir mon père, puis écoute, ça va pas même mon affaire, je te demande pardon, papa. On peut-tu recommencer? À neuf? À zéro? Non, c'est pas ça. Il s'est levé, puis il est allé s'humilier. Mais de nos jours, je vous dirais que ce qui est malheureux, c'est que c'est rare qu'on voit des repentances évidentes et concrètes comme ça. C'est rare de nos jours. Où que les gens s'expriment clairement avec les torts. Cette semaine, j'enseignais à l'Institut de théologie pour la francophonie, puis juste ça avec les étudiants, parce qu'on était sur comment on va chercher de l'information sur les gens, comment on apprend, comment on les amène à raconter leur histoire. Puis je leur ai dit, essayez de remarquer que quand les gens racontent leur histoire, après ma barre, ils le font selon toujours deux rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de victime. Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Le deuxième rôle, c'est le héros. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour m'en sortir dans ma vie. Mais très rare, les gens m'ont dit, voici, moi, je suis le méchant dans l'histoire. C'est moi qui ai mis le trouble. C'est moi qui ai tout brisé. C'est moi qui n'ai pas été un fils correct. C'est moi qui n'ai pas été un parent assez assidu avec mes enfants. On le fait pas, on s'économise dans tout cela. Et le temps qu'on s'économise, qu'on n'ose pas le faire, on ne corrige pas la chose. On ne corrige pas le fond intérieur. On essaie de maquiller ça en justification, en explication rationnelle, mais dans le fond, vous et moi, on a tous en commun qu'à un moment donné, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On a pensé des choses qu'on n'aurait pas dû penser. On vit cette réalité-là. Mais le fils prodigue arrive à ce stade où ce qu'il reconnaît la réalité, et à ce moment-là, il revient, il vient faire face à la situation. Il vient faire face à la réalité de son... Le fils revient, on peut encore une fois s'imaginer tout ce qu'il a vécu dans son retour, en chemin vers le retour, en affrontant son père, la honte qu'il a vécu, la culpabilité, la peur, comment il va être reçu et tout ça. Mais le fils, le frère, ne saisit pas ça, la conversion de son frère. Il saisit pas non plus l'intention du père. Parce qu'encore une fois, quand on regarde le texte, l'altercation qui prend place est entre le père et le fils. Il répond à son père. C'est son père qui sort dehors pour l'inviter. On voit ça au verset 28. Son père est sorti pour l'inviter. Viens, rentre avec nous. Viens te réjouir avec nous. Puis le fils commence à débattre avec son père. Puis il répond à son père. Il y a tant d'années que je te sers, puis jamais moi je t'ai désobéi. Puis le père le répond un petit peu plus loin. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir de ses griffes quand ton frère, que voici, était mort, puis il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. L'affection de son, l'intention de son père, c'est de se réjouir parce qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Encore une fois, si on met de côté un peu notre rival, notre sentiment, je vous dirais, comment on fait pour dénouer une histoire comme ça? Qu'est-ce que le frère prodigue ou le frère du fils prodigue doit réaliser? C'est pas en restant fâché pendant les 25 premières années, en ne reparlant plus jamais à son frère qu'on va dénouer la situation. Il y a un moment donné qu'on doit faire face à la situation. Il faut qu'il comprenne l'intention de son père. L'intention de son père, c'est qu'en dépit du passé qui s'est passé, de tout ce qui est arrivé comme abus dans le passé, en dépit de tout cela, c'est une bonne nouvelle. Il faut que tu saisisses le côté bonne nouvelle dans la situation parce que mon intention comme père, moi, c'est de réconcilier les choses. C'est ça mon plan de match. OK? Maintenant, l'histoire ne le dit pas parce que bien sûr c'est une parabole, mais le père a peut-être pas réussi, ou je ne sais pas à quel point il a réussi à le convaincre de cette réalité-là, mais ce qui est évident, c'est qu'il n'a pas saisi cet élément-là. Ce qu'il n'a pas saisi non plus, ce qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas cherché à comprendre, c'est l'affection de son père. Son père l'appelle par mon enfant. Il dit, toi mon enfant, toi mon fils. Et encore une fois, dans ses mots affectueux, il redéfinit la relation qu'il a avec lui. Faut que tu comprennes que je t'aime mon enfant. Faut que tu comprennes que mon cœur de père est avec toi. Mais il peut pas juste être avec toi parce que j'en ai un autre fils. Je peux pas investir, et c'est un peu ce qui prend souvent place dans les familles, c'est que certains enfants voudraient monopoliser l'affection du père. C'est comme si le fils dirait, je veux que tu m'aimes moi tout seul, parce que lui, il est plus digne d'être aimé parce que regarde ce qu'il a fait. Et maintenant, vous voyez bien qu'on transite progressivement et que le père qu'il y a dans cette parabole du fils prodigue, c'est aussi un symbole de Dieu qui nous aime tous, peu importe ce qu'on a fait. Dieu aime pas plus les ex-toxicomanes ou les ex-drogués ou les ex-détenus ou les ex tout acabis. Il aime aussi les gens ordinaires. Puis souvent, on a l'impression, puis certains ont l'impression, coudonc, faut-tu que je fasse quelque chose de mal puis que Dieu commence à m'aimer? Faut-tu que je fasse un coup d'éclat, une grève, une manifestation, une attaque à la bombe? Qu'est-ce qu'il faut? Dieu! Ben non, on n'a pas besoin de cela, parce que le cœur de Dieu nous aime tous. C'est nous qui faisons notre lecture, souvent déformée par notre nature, de cette réalité-là. Comprendre la réalité de l'intention de Dieu, de l'affection de son père, c'est-à-dire, bien sûr, de l'équité de son père. Toi, tu es toujours avec moi. C'est quoi qui n'est pas correct, là? Pour qu'est-ce que tu veux au juste? Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai déjà à toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis l'imputation de sa propre vie, ce qu'il n'a pas vu, c'est que le père lui a dit, tout ce que j'ai déjà à toi. Écoutez-moi bien maintenant ici, juste l'espace d'un instant. Je ne sais pas comment choisir les mots pour vous définir ça sans créer quelque chose chez des gens qui ont vécu des choses difficiles. Mais peu importe le passé qu'on a, peu importe les conditions, puis je ne dis pas ça avec légèreté, là. Peu importe l'arrière-plan qu'on a, peu importe les blessures qu'on a eues, les douleurs, peu importe le gâchis que certaines personnes ont fait dans notre vie, à la fin et au bout de compte, c'est ce qu'on fait avec tout ça qui prévaut. C'est pas ce qui m'arrive qui est si grave. Je sais que c'est grave. Puis je dis pas ça pour le banaliser, là, comprenez-moi bien. Mais c'est ce que je fais avec ce qui m'arrive. Vous savez, plus je vieillis, plus je mûris, plus je me comprends, plus je comprends les gens, plus je comprends la vie, plus je la saisis, plus je réalise que la vie, c'est tout sauf une ligne droite. On s'attend toujours à avoir la belle ligne droite, que tout va s'emboîter facilement, que nos enfants vont prendre les rangs facilement. On a encore, dans certains cas, dans un certain idéaliste, l'impression que la vie, ça devrait être comme ça. Ça peut-tu être facile, là? Nous annonce des nouvelles très, très dures ce matin. Les impôts ne baisseront pas. L'essence ne baissera pas beaucoup plus que ça. Selon mes prophéties, devraient recommencer à monter avant longtemps. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie. Il y a des choses qui se passent. Ça ne sera pas plus facile. Il faut composer avec. Il faut faire face à cette réalité-là. C'est la responsabilité qu'on a. Ma vie est imputable à moi. À la fin de ma vie, c'est moi qui dois la prendre en charge. C'est moi qui dois la prendre en charge. Puis dans la vie, bien sûr, les gens nous font des choses. Il n'y a pas personne ici. Il n'y a pas personne dans cette salle, il n'y a pas personne sur cette estrade ici qui peut dire, voici, moi, je l'ai eu la vie avec une belle ligne droite qui ne m'est jamais rien arrivé. Jamais personne n'a rien dit contre moi. Jamais personne n'a rien fait de mal. Personne ne peut dire ça. Mais à quelque part, on réalise avec les années, puis quand je regarde mon propre parcours personnel, mon cheminement, que ce n'est pas tant ce que les gens me font qui me fait mal, autant que ce que je fais avec ce qu'ils me font. Est-ce que je décide de nourrir ça? Quand on parle de ressentiment, le thème le dit bien, c'est quoi du ressentiment? C'est un sentiment qui est constamment répété, ressenti, re-ressenti à nouveau, constamment brassé. Et ce frère-là brasse ce ressentiment, il en veut à son frère, il en veut à son frère, il en veut à son frère. Qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est parti, pourquoi il a pris la part. Puis pendant des années, il a brassé ça à l'intérieur de lui. On peut pas brasser ça pendant des années sans subir les effets. On ne peut pas mijoter dans le fiel du ressentiment sans être contaminé soi-même et empoisonné. Je vous voyez bien dans mon propos que je ne banalise pas ce que le fils a fait. Ce qu'il a fait, c'est grave. Mais on n'a pas de pouvoir sur lui. On n'a pas de pouvoir sur ce que les gens nous font dans la vie. Mais on a du pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qu'on laisse entrer à l'intérieur, sur ce qu'on laisse pénétrer au plus profond de notre entaille, de nos entrailles, et qui effectivement nous entaille dans le cœur profondément, le ressentiment et tout ça. Êtes-vous encore avec moi ce matin? Des choses qu'il faut comprendre, que le fils n'a pas compris. C'est facile pour moi, et c'est facile pour le Dr. Phil de dire ça, mais on sait certain que ce n'est pas facile à vivre à ta vie tous les jours. Troisième élément, ce qui est fascinant, c'est un peu la pensée principale que j'ai pour vous ce matin. Il a passé à côté de la vie, malgré qu'il était déjà à côté de la vie. Le titre de ce message ce matin, c'est « Retour à la vie ». Et le fils est là. Le fils est là, puis son père lui dit, pour le raisonner lorsqu'il est à l'extérieur, lorsqu'il ne veut pas rentrer, puis son père cherche à l'inviter, il lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » L'enjeu de cette histoire-là, c'est la vie. Le thème qui revient constamment tout au long de cette parabole-là, c'est le thème de vie. Avec le fils prodigue, il dit, « Maintenant, mon fils était mort, il est revenu à la vie. » Maintenant, vous savez qu'on est dans l'image ici. Ce n'était pas une mort physique. Vous me dites peut-être, oh, il était mort spirituellement, puis il est revenu à Jésus. C'est plus que ça. Parce que là, on parle de la vie de tous les jours. On parle de la réalité quotidienne de ce que vivent des gens. Jésus prend cette parabole-là parce qu'il veut convaincre les scribes et les pharisiens d'un certain nombre d'informations importantes par rapport à ce que je pourrais appeler sa théologie du royaume, de comment lui fonctionne avec la réalité de la vie des gens. Alors, il présente la réalité de ce fils-là pour illustrer aux gens qu'il y a toujours possibilité d'avoir accès à la vie, puis à la plénitude de la vie, puis à la vie que Dieu veut que j'aie. Mais c'est le même raisonnement qu'il a avec le frère du fils prodigue. Puis c'est comme s'il dit au frère, ton frère, il a perdu sa vie, lui. Il était mort. Il était perdu, puis là, il est revenu à la vie, puis là, on l'a retrouvé. Ça, c'est super. Mais toi, tu ne l'as pas perdu. Elle a toujours été là, la vie, mais tu ne l'as pas saisi. Elle était à côté de toi, puis tu ne l'as pas pris. Est-ce que j'ai déjà parlé de mon oncle Léo? Qui sont ceux qui ont des oncles Léo? Là, il s'appelle... Autre nom, mais moi j'avais un oncle Léo qui était mon parrain. Je ne sais pas pourquoi je vous dis qu'il était mon parrain, ça n'a jamais rien changé dans ma vie, parce que le classique, c'était à toutes les fêtes, et il disait, c'est-tu toi mon filleul, Denis? Je dis, oui, mon oncle, c'est moi. Ah, j'avais oublié encore cette année. Je l'ai cru jusqu'à 14-15 ans, puis à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à le lire. Décroche, mon oncle Léo, c'est plus ça. La réalité, c'est que... Vous voyez, ça m'a fait du bien d'en parler ce matin. J'ai vraiment foulé ça. Je pense que j'avais du ressentiment. Mon oncle Léo, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Mais l'anecdote que je veux vous raconter, c'est quand j'étais petit, j'allais avec ma mère et mon père chez mon grand-père. Mon grand-père était concessionnaire de la marque de voiture Vanguard, qui s'est jamais vendue, puis ça a fini mal l'histoire du garage. Mais ce que j'ai retiré de cette histoire-là, de cet épisode de mon enfance, c'est qu'à l'intérieur du garage de mon grand-père, il y avait une... Je ne peux pas dire autre expression, excusez-moi, monsieur les Français, mesdames les Françaises, il y avait une machine à coke. Mais maintenant, ce n'est pas de la coke comme de la cocaïne, c'est une machine rouge et blanche Coca-Cola. OK? Et j'arrivais chez mon oncle, puis là, vous savez, le gros frigidaire rond, là, ceux qui sont de mon époque, là, hein, avec des petits coke en vitre, là, des tout petits qui ont ressorti récemment pour atteindre les baby boomers comme nous qui ont de la nostalgie du passé. Puis là, moi, j'étais petit, hein, puis ma mère nous avait bien élevés. Ma mère, faut pas qu'on fasse honte à notre mère, hein. Fait que si vous demandez jamais rien au mon oncle ou aux tantes, vous faites pas ça, là, parce que votre mère va passer pour quelqu'un qui prend pas soin de vous à la maison. Fait que moi, je fantasmais sur la bouteille de coke, j'en salivais, j'en étais malade de rêver d'avoir une bouteille de coke. Puis mon oncle passait à côté de moi, puis il disait, tu veux-tu quelque chose, mon petit gars? Puis moi, je disais, je sais pas. Ah, ben, si tu sais pas, je t'en donne pas. Là, il s'en allait. Là, il revenait. Je sais pas, vous voyez un petit peu mon temps à moi, le côté agressif-passif. Hein. J'étais assis avec mes petites culottes courtes, mes petits souliers cirés. Puis là, il repassait, tu en veux du tamarin. Ça va, une petite bouteille de coke? Je sais pas, mon oncle. OK. Puis là, il s'en allait, il m'en donnait pas. Il me torturait pendant, je sais pas ce qu'il a voulu créer comme ça, là. Ça a rien changé à ma vie. Sauf de découvrir un jour que j'aurais bon Dieu lui dire, « Je peux-tu avoir un coca, s'il te plaît, cher oncle Léo? » Puis vraiment, je l'aurais accès. J'étais à côté de la machine, puis je pouvais pas en prendre. C'est vous, c'est pas la machine, c'est pas mon oncle, c'était moi. Trop rangé, le petit gars. Trop bien. J'avais pas compris, moi, que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Ça a commencé, j'aurais sauté sa machine à coke. Je l'aurais ouvert, je l'aurais ventré à la machine, je l'aurais pris. Ça a sauvé les caisses de coke. C'est vous, je pense que ça m'a traumatisé plus que je le pensais. Vous allez me faire un cadeau, vous pouvez m'amener une petite coke verte, vous pouvez une bouteille verte, ça vous fait du bien. Ça va être comme un remède pour moi. Okay? La pensée, c'est un peu la même chose pour le frère prodigue. Il est à côté de la vie. Il est à côté de tout ça. Le texte, plusieurs choses qui me demandent comment ça se fait qu'il est à côté. Il était isolé. Le fils était encore dans les champs quand l'histoire s'est passée. Il était absorbé, il y a tant d'années que je te sers. Il est isolé dans son coin, il fait ses choses, il bosse dur, il travaille dur. On sait que l'histoire nous dit que son père surveille toujours le retour de son fils, de son autre fils, de son jeune fils. Mais lui, il travaille. Il est absorbé par ça. Depuis tant d'années. C'est un garçon qui est aveuglé. Il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé ses hommes. On peut parler dans toutes sortes de choses, de gens qui sont toujours accrochés sur toutes sortes de détails. De perfectionniste notoire. J'aime, tout était correct. J'ai tout fait parfait. Ça a tout marché. J'ai fait la bonne. Comment ça se fait que ça m'arrive? Tout est correct. Je sais que tout est correct. Jamais j'ai transgressé des ordres. Jamais j'ai failli. Jamais j'ai manqué mon coup. Mais ça, on devient absorbé par ça. On devient aveuglé par ça, par le souci du détail. Il était offensé. Ton fils, celui qui a mangé avec des prostituées. Maintenant, regardez-moi bien. Je sais pas comment je peux pas prendre, là. Essayez de vous imaginer que la vie, elle est ici. Une représentation de la vie qui est ici, et que lui est à côté de la vie. Le fils prodigue a perdu la vie, s'est sauvé, puis un jour il revient, puis son père lui dit, il retourne à la vie, il a ressaisi la vie telle qu'elle devait être. Le fils, lui, est là, la vie est là, il tourne autour, il passe sa vie à regarder ça. On ne sait même pas jusqu'à quel point qu'il sait qu'elle est là. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'il sait qu'il peut saisir ça. Mais pourquoi qu'il ne voit pas ça? Parce qu'il est absorbé par autre chose, parce qu'il ne regarde pas là, parce qu'il regarde à son frère, parce qu'il regarde au passé, parce qu'il regarde à son père, parce qu'il regarde à son travail, parce qu'il regarde à mille et une préoccupations, sauf celle de dire, la vie, là, c'est quelque chose que je saisis. Comme je le dis souvent, c'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose que je saisis. C'est pour moi aussi. La vie que Dieu offre, puis je ne parle pas en ce moment seulement de la vie éternelle, c'est-à-dire le salut à la fin de votre vie, le genre de vie que Dieu veut pour nous. Le zoé de Dieu dans ma vie. Cette vie de plénitude, cette vie qui fait en sorte que ma vie va avoir un sens complet. Cette vie qui est une représentation vivante de Dieu qui est dans ma vie, cette réalité-là. Maintenant, la condition du frère prodigue, c'est fascinant parce que quand une fois on revient à la pensée de pourquoi il ne voit pas les choses, il y a un texte qui va apparaître à l'écran qu'on revoit dans Éphésiens chapitre, je pense que c'est 4 ou 5, allez avec moi à la diapo numéro 22. L'épître de Paul aux Éphésiens, où le texte mentionne, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'apôtre Paul le sut très bien, il y a quelques millénaires, diagnostiquer l'origine de l'aveuglement de bien des gens. Pourquoi les gens ne voient pas ce qu'ils devraient voir? Et le texte mentionne deux choses. Premièrement, ils ne voient pas parce qu'ils ne savent pas. Le texte mentionne qu'ils sont à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne savent pas que cette vie-là est accessible. Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à ça. Ils ne savent pas que c'est disponible pour eux. Il y a des gens, encore une fois, qui pensent que c'est d'autres qui peuvent avoir ça, mais qu'eux n'ont pas le choix, n'ont pas le droit de l'avoir. Et c'est le mensonge le plus subtil, le plus pernicieux que des gens peuvent vivre. À cause de l'ignorance qui est en eux, ils ne savent pas. Puis à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ne voient pas, puisqu'il y a des choses qui ne se voient que dans le cœur, que par les yeux du cœur. Cette passion, ce désir de faire quelque chose, cette passion profonde, on le voit chez des enfants qui n'osent pas, qui sont convaincus qu'à quelque part la vie ne peut pas leur faire plus que ça. De jeunes enfants qui savent tout de suite qu'eux, ils l'ont, d'autres l'ont, puis eux, ils l'ont pas. Cette impression profonde. Puis, ce qui est difficile, souvent, c'est de les faire déclencher, de les faire surmonter, sans dire, non, la vie, c'est quelque chose que tu peux avoir toi aussi. Mais souvent, ils savent pas, ils voient pas parce que leur corps est endurci, parce que c'est des échecs, parce que c'est des blessures, parce que c'est des impossibilités. On vit ça enfant, on le vit adolescent, on le vit adulte. Mais on vit ça à l'intérieur profondément sans jamais le dire. C'est la réalité. Maintenant, le fils prodigue, le frère plutôt prodigue, représente bien des choses. Ça représente, c'est pour suivante, le côté jaloux et envieux présent à chacun de nous. On a tous ce côté-là dans lequel le jardin du voisin est toujours plus verdoyant que le nôtre. De gens qui mettent leur énergie à envier les autres. Ça représente aussi la difficulté à assumer notre propre vie, sans regarder à celle des autres, sans comparer, sans envier encore une fois. C'est aussi la condition, le symbole de la condition de milliers de gens blessés qui ne croient pas que la vie est pour eux aussi. Elle représente des milliers d'églises qui devraient être porteuses de vie qui ne le sont pas. Ça symbolise des milliers de croyants qui chaque jour viennent à l'église et qui n'expérimentent pas la vie que Dieu a pour eux. Ça symbolise cette société blasée qui nous entoure, qui conspue contre une église qui ne désire qu'apporter la vie. Toujours étonné, toujours excessivement étonné, parfois irrité même, de voir comment la société traite l'Église. Vous savez que dans nos racines québécoises, on a un ressentiment contre l'Église en général. Un point tel qu'à un moment donné, même au moment où dans une société comme moderne, l'Église n'a plus beaucoup de pouvoir comme elle l'a eu dans les années 40, 50 et tout ça, que les gens entretiennent encore un ressentiment profond. Et c'est fascinant parce que tout le temps qu'ils se moquent, tout le temps qu'ils rient, tout le temps qu'ils se frustrent, ils ne savent pas qu'au cœur de cette Église-là, on le vit à chaque semaine, l'équipe pourrait vous dire, il y a des gens qui ne savent même pas que si ils passent à tous les jours ici devant le bâtiment, puis ils n'ont jamais pensé qu'il se passait quelque chose. Si près de possibilités de changement dans leur vie. Essayez de vous imaginer, c'est comme quelqu'un qui est dans le désert assoiffé, qui passe à côté de l'oasis sans l'avoir. De quelqu'un qui, qui manque de gasoline puis qui est assis sur un puits de pétrole. De quelqu'un qui meurt de faim puis qui conduit un camion de Provigo. Si près de quelque chose, puis pas pouvoir y avoir accès parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne le voient pas. Milliers de gens, vous le savez, vous venez dans votre propre famille, vous tentez de les convaincre, vous ne pouvez même plus les convaincre parce que la vie qui est là, la vie qui est possible à l'intérieur d'eux, la vie qui pourrait être accessible si près de la vie, mais si loin en même temps. Comment faire pour corriger ça? Je vais demander aux musiciens de s'avancer pour la conclusion de ce message de ce matin. Encore une fois, comment on fait pour résoudre cette chose-là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est beau. Je peux vous avoir réussi à vous convaincre qu'il a passé à côté de la vie, mais comment on fait? C'est quoi la solution? Je vais vous proposer 4 pas du frère prodigue. Premier pas ce matin, au départ, reconnaissez votre condition de cœur. Le premier pas ce matin, reconnaissez votre condition de cœur. Il s'est mis en colère, il ne voulait pas entrer. Encore une fois, là, écoutez-moi, s'il vous plaît. Le problème avec les gens qui souvent vont réagir fortement à des situations, c'est qu'ils sont justifiés de réagir à des situations. S'ils m'avaient pas fait ça, j'aurais pas réagi comme ça. On cherche la cause de notre tourment intérieur dans la vie des autres. Mais c'est bien sûr qu'il arrive des choses dans la vie. C'est bien sûr qu'il ne peut pas ne pas arriver des choses dans la vie. Que la vie peut pas, comme je l'ai mentionné, être si facile qu'on n'a jamais de contrariété. Laissez-moi vous dire que lorsqu'à un moment donné, il y a eu des situations où ça a fait émerger quelque chose dans l'intérieur de nous. Faites capable d'avoir quelque chose qui ne marche pas avec moi. Je vais raconter une anecdote qui a pris place il y a plusieurs années. Je ne sais pas si mon fils est né ici, il va peut-être s'en souvenir, il n'était pas vieux à l'époque. J'étais dans la région de Sherbrooke, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté aussi. Mais bon, samedi matin, comme tous les mâles québécois typiques, je décide d'aller laver mon char au car wash, de laver ma voiture au lave-auto dans ma ville. Et là, je rentre dans le couloir du lave-auto, puis il y a deux, trois voitures en avant de moi, puis il y a deux, trois en arrière de moi. Je suis un matin, pout, avec mon petit garçon qui était à côté de moi, c'est Anthony, mon fils aîné. Et à un moment donné, le gars il arrête pas de peser sur le grillage. Put. Mais là, je peux pas avancer, j'ai deux voitures en avant de moi. Et là, je dis, écoute, je sais pas quoi, il fait peut-être un test quelconque sur son, OK? Là, il pèse encore put. OK? Puis à un moment donné, il a fait un put de trop. J'ai sorti de ma voiture, OK? J'ai sorti de ma voiture. Bon, on va changer de sujet maintenant. OK? Puis je t'allais faire put. Non. En bon québécois, j'ai perdu le contrôle. Je suis allé l'invectiver. Quand je suis rentré dans la voiture, mon fils m'a dit, je sais pas si ça, peut-être qu'il a évacué ça par sa conscience, il dit, papa, qu'est-ce que t'as fait là? Mais pourquoi? Parce que lui, il est habitué d'un bon père qui est en contrôle de tout, d'un père qui aime Jésus de son cœur. Alléluia, amen. Dieu est bon. Il lit sa Bible, il pense, OK? Mais ce jour-là, son père a pété les plombs. Maintenant, là, écoutez bien ce qui arrive. Quand je chantais dans la voiture, puis il m'a dit, papa, qu'est-ce qui est arrivé là? J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec moi. Que le problème de ma vie, c'était pas le put du gars en arrière. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas à l'intérieur de moi. Mais bien sûr, je me suis rentré moi-même en autopsie. Et je suis allé voir ce qu'il y avait pas à l'intérieur, puis j'ai vu que j'avais un paquet de frustrations qui s'accumulaient depuis quelque temps. Ça n'allait pas financièrement, ça n'allait pas, les choses ne marchaient pas comme je voulais. Je tirais le diable par la queue. Toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas. Vous savez ce que je peux pas vous convaincre. Vous savez que quand ça se met à pas marcher, là. Mais là, on est bon chrétien, bon, on essaie de contenir ça, puis de d'un moment donné, il y a un put, il fait déclencher tout. Parce que là, à ce moment-là, on réagit fortement. Le fils, c'est ce qui arrive. C'est ce qui lui, le frère, c'est ce qui lui arrive. Il arrive ce moment où, dans cette réalité-là, il saute, mais la réalité, c'est qu'il faut reconnaître l'état de notre cœur. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi, je peux pas réagir excessivement comme ça, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mon patron, que ce soit sur le pont Jacques-Cartier dans la bouteillère avec la rage au volant, peu importe la situation. La Bible, elle dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie, elle prend place ici, dans le cœur, dans les passions du cœur, dans les désirs du cœur, dans les rêves du cœur. Il faut sauvegarder ça. Un cœur, je dis souvent, le cœur, c'est pas une poubelle. C'est un écrin à bijoux. Qu'est-ce que je place là-dedans? Du ressentiment? Les déchets de mon amertume? C'est pas Dieu garde mon cœur. C'est Dieu qui me dit garde ton cœur. Protège ton cœur. Laisse pas pénétrer à l'intérieur de toi tous ces éléments-là. Tous ces choses qui viennent. Au contraire, cultive de meilleures pensées, de meilleures façons de voir les choses, d'envisager les choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de lui, c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Deuxième élément. Deuxième pas du frère prodigue. Rétablissez une vraie relation avec Dieu. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours là. Je suis toujours ton père. Il n'y a rien qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans la vie de ton frère pendant des années parce qu'il a été perdu, il était au loin. Mais toi, tu as toujours été près de moi. T'as toujours été. Je suis toujours là. Encore une fois, je m'adresse à vous. Vous pouvez être ici 3, 4, 5 fois par semaine, être loin de Dieu. Vous pouvez professer d'être chrétien sans être près de Dieu. Je dis pas ça pour vous mettre un jour de culpabilité, juste pour raviver que la vie avec Dieu, c'est pas juste des devoirs à faire, des règles à obéir. C'est pas juste un travail à accomplir. C'est une relation avant toute chose. C'est que je veux être près de toi. Dieu est pas tant intéressé à tout ce qu'on fait pour lui, à être avec lui, à être proche de lui, être dans cette relation-là pour maximiser cette vie-là. Le fils, il est à côté de son père, mais il ne connaît pas ce père-là. À un point tel que c'est son père qui doit plaider, qui doit tout faire, qui doit manœuvrer pour le ramener à la maison. La Bible dit, « Car auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. J'ai accès à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es la source de la vie. Les sources de la vie sont dans mon cœur, mais les sources de la vie sont aussi dans ma relation avec mon Dieu. C'est ça, cette réalité-là. » Troisième pas du fils prodigue, du frère prodigue, excusez-moi, réconciliez-vous avec le passé. Ton frère que voici était mort, puis autrefois il était perdu. Ça, c'est une condition passée. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Vous avez tous, on a tous un catalogue incroyable, une liste invraisemblable de situations qui se sont passées dans le passé. De déceptions, de rêves qui se sont pas réalisés, de décisions que les gens nous ont prises qui ont contrecarré notre vie, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans des défis de carrière, que ce soit dans des ventes pour les vendeurs, dans des gens avec qui vous travaillez, on vit tous des choses dans le passé, Mais le passé ne se répète pas, il ne se répétera pas dans la mesure où je le largue, les pensées. Le passé. Moi, je dis souvent que le passé, c'est comme un quai. Il faut que je largue les amarres de ma vie, puis je le quitte. Pour que ma vie prenne la direction qu'elle doit prendre, pour que je puisse voguer sur l'océan de la vie, il faut que je largue les amarres. Je me détache du quai du passé. Certains, c'est plus facile, certains, c'est plus difficile, mais on ne peut pas rester attaché constamment à ces blessures du passé puis croire qu'on peut évoluer. C'est fini, là. C'est fini. Ton frère était mort, il n'est plus mort. Ton frère était perdu, il n'est plus perdu. C'est fini, là. On va passer à autre chose. On va faire la paix avec ça, on va se réconcilier avec ça. Ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, maintenant il est retrouvé. Et dernier pas, je demande au musicien de commencer à jouer. Raccommodez-vous avec les gens. Le père de répondre à son fils, mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, pas mon fils, mais ton frère, est revenu à la vie et qu'il est retrouvé. Encore une fois, on le vit, c'est les drames de la condition humaine. Des gens restent fâchés pendant des décennies par quelqu'un d'autre. Par un, peut-être un père, ça peut être une mère, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, la vie de famille. Ça peut être dans l'Église. On peut être chrétien pendant des années sans qu'on vive quelque chose avec quelqu'un quelque part. Des gens qui avaient vécu des choses, c'est-à-dire que, vous savez, j'ai des histoires que je peux même pas raconter parce que les histoires sont encore trop vraies, trop fraîches dans la vie de certaines gens, mais il y a des rejets incroyables que les gens ont vécu. Des gens qui ont vécu des trahisons incroyables, de gens qui ont blessé des gens. Vous savez, les difficultés de cette vie, les tempêtes de la vie dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire tous les Katrina de ce monde, c'est Andrew, on se forge pas après des acts of God comme ça. C'est vous qui va nous chercher le plus. C'est les gens. C'est quand des gens font quelque chose dans notre vie. On se forge pas par un accident qui ne met pas en présence personne. Mais quand quelqu'un, un chauffard, nous fait quelque chose, on est forgé après lui. Et dans la vie, c'est ça qui arrive souvent avec des gens. On est fâché après eux, on leur en veut, parce qu'on a l'impression que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Il y a un moment donné où on peut passer notre vie dans le ressentiment. Où on peut commencer à réaffronter ces gens-là. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui ont été abusés dans le passé. Et je ne cherche pas à vous replacer dans un contexte de souffrir à nouveau. Mais la Bible dit, en autant que vous, cela soit possible pour vous, soyez en paix avec tous. La réalité de la manifestation de la vie de Jésus dans ma vie, c'est dans ma capacité à replacer, à réconcilier et à raccommoder ma vie avec les autres. C'est ça la réalité. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il n'a pas accès à la vie. Vous pouvez pas à la fois louer Dieu avec vos mains, puis l'aimer de tout votre cœur, puis simultanément ressentir quelque chose avec quelqu'un. Éprouver du ressentiment, de l'amertume et toutes sortes de choses. Il faut vous arriver auprès de Dieu en disant, Seigneur, je veux que tu dégages ça de mon cœur. Je veux vivre une vie chrétienne. Et comme je l'ai mentionné tantôt, il n'y a personne de gagnant à ce que le frère du fils prodigue reste fâché encore des décennies et des décennies. La famille est menacée. Les choses peuvent se dénouer tout à fait différemment. Ce qui est fascinant avec l'histoire de cette parabole-là, c'est qu'il n'y a pas de fin. La fin se manifeste au verset 32 par le plaidoyer de Dieu qui dit, écoute, là, essaie de me comprendre, il fallait bien se réjouir. J'avais pas le choix d'en faire une grosse surprise partie. J'avais pas le choix de faire ça. Pourquoi? Parce que ton frère était mort puis il revenait à la vie. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pas contre toi que j'ai fait ça, c'est pour lui que j'ai fait ça. C'est pas pour t'enlever quelque chose, c'est pour lui redonner quelque chose que toi t'as déjà, que t'as toujours eu, que tu vas toujours avoir pour le reste de ta vie. Change ta conception de moi. Change ta conception de moi. Pour beaucoup d'entre vous, vous devez saisir ce qu'est le secret de la vraie vie selon les yeux de Dieu. Regardez bien, ça va apparaître à l'écran. C'est quoi le secret de la vraie vie? Une relation avec un Dieu pleinement sage, bon et compatissant comme ce Père-là, qui nous a créés comme expression de son amour et qui désire nous apprendre à l'aimer, à nous aimer, les uns les autres de la même façon qu'il nous a aimés. Et tout cela dans les conditions réelles de la vie de tous les jours. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Je vous demande de pencher votre tête, fermer les yeux quelques instants. Je voulais faire un appel ce matin à la majorité silencieuse ici. Je voulais faire un appel ce matin à tous ceux qui désirent cette vie-là. Vous êtes, encore une fois, je ne reprendrai pas toute mon explication, vous êtes des gens anonymes, des gens qui... Tout est toujours correct pour vous. Tout va toujours bien. Mais à l'intérieur de vous, c'est pas cette réalité-là. Maintenant qu'on va chanter le chant qu'on a chanté précédemment, demandez d'avancer, de pouvoir commencer ce chant-là, je veux vous demander ce matin d'avoir accès à cette vie. Je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici ce matin en ayant passé à côté de la vie, si près de la vie, mais à côté d'elle, sans la saisir. Après avoir chanté ce chant à quelques reprises, je vais vous demander de prendre votre liberté. Certains vont devoir sortir de l'anonymat, vous êtes toujours perdu un petit peu dans la foule. Mais ce matin, cette histoire, si vous vous associez à l'histoire du frère du fils prodigue, vous ressentez ce que lui a éprouvé. Si la description de son cœur, c'est ce que vous, vous avez vécu, c'est ce que vous vivez depuis trop longtemps maintenant. Et que vous avez l'impression que parfois la vie vous échappe, elle vous file entre les doigts. Ainsi, je vais vous encourager ce matin à la saisir cette vie-là. À vivre de subir année après année après année. À vivre votre vie chrétienne à l'anonymat. De vous exposer devant le Seigneur en disant, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Je ne quitterai pas cette salle ce matin. Ça va nous toucher de ta présence, nous toucher de ton esprit. Pendant qu'on chante quelques instants. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus,
me
voici devant toi.
Jésus, approchez-vous de moi ce soir. Ce matin, approchez-vous de cette estrade ici.
Alléluia, Jésus.
Alléluia, Jésus.
J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi.
Alors, tout le monde, je vais vous demander de vous lever à l'instant. Je crois de tout mon cœur et je ne veux pas insister, je ne veux pas vous forcer, je ne veux pas vous sentir obligé. Mais je crois que la description du frère, du fils prodigue ne représente pas la minorité de gens qui sont avancés ici en avant. Encore beaucoup de gens qui ont peur de quitter cet anonymat-là, ils ont peur que d'être exposés. Et vous passez à côté de tellement de choses. Maintenant, je sais bien sûr que ce n'est pas juste le fait d'avancer en avant qui règle tout. Ce matin, je vais vous amener à faire un pas de plus, à quitter le confort de votre condition, le confort de votre vie intérieure où les choses sont cachées. Ce matin, je plaide devant vous comme le Père plaide à son Fils. Rentrez dans la présence de Dieu. Venez rentrer dans la présence de Dieu. Venez ici. Je vous en prie, ce matin, vous avez accès à la vie par des pas de foi, par un cheminement vers celui qui peut vous la donner. Et celui-ci, c'est Dieu. Des gens vivent cette vie d'ores et déjà. Des gens goûtent à cette vie d'ores et déjà. Qui est symbolisé par la fête qui est dans la maison, par le veau gras qui est tué, le fils est revenu à la vie. Mais le frère reste à l'extérieur. Le frère refuse de rentrer dans cette maison-là. Frustré, obstiné, sceptique peut-être. Je vous demande ce matin, je vous offre, par la grâce de Dieu, Dieu vous offre plutôt cette vie-là. Pendant qu'on va le chanter encore à quelques reprises. Encore une fois, je ne veux pas insister. Ce matin, certains devront quitter cet état-là et s'avancer vers Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de cette vie-là. Je veux la saisir, cette vie-là. Je veux goûter à cette vie-là. Je ne veux pas juste faire une vie religieuse seulement, mais je veux bâtir une relation avec toi encore davantage en profondeur. Saisir cette vie-là, Seigneur. Saisir cette vie. Alléluia, Jésus. Alléluia. Prenez votre liberté ce matin. Laissez-moi voir avancer ce soir. Venez la saisir cette vie ce matin plutôt. Venez la saisir cette vie ce matin. Elle est là pour vous, elle vous attend. Prenez-la ce matin. Alléluia, Jésus.
J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie.
Alléluia, il y a quelque chose de plus pour vous, pour chacun de vous ce matin. Alléluia.
Me voici devant toi, Jésus.
Alléluia, Seigneur Jésus.
Je me prosterne à la croix, Jésus.
Alléluia, Jésus.
J'ai tellement besoin de toi.
voix, Seigneur.
Jésus,
alléluia.
Me voici devant toi, Jésus.
Alléluia, Seigneur Jésus.
Je me prosterne à toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.